geliyor.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que ce soit cool, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu, si vous nous rejoignez, bienvenue en tout cas dans ce Canu Info du jeudi 27 avril 2017, un Canu Info, d'entre deux tours, d'entre deux personnages, hein, d'un côté Macron, de l'autre côté Le Pen. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, donc candidats tous les deux hein, au deuxième tour des élections présidentielles de la République française. Alors depuis dimanche, quelques mouvements, quelques manifestations quand même, hein, à Toulouse, à Rennes, à Paris et puis à Lyon. Bon, à Lyon c'est un peu parti dimanche en cacahuète sur les pentes, le bas des pentes. Ça a tourné court avec la présence de la police, hein, comme toujours. Et puis d'autres actions. Hein, aujourd'hui, il y avait un appel à Assemblée Générale à la Bourse du Travail à 17h30. Mais nous n'y étions pas avec Laurent, qui est là derrière le micro de la technique. Nous n'y étions pas puisque nous étions sur la place d'Attero où un rassemblement avait été appelé à 18h. Alors au début, il faut bien le dire qu'avec Laurent, nous n'en savions pas beaucoup sur cet appel. Nous avons croisé un camarade d'un autre Canu Info à qui nous avons demandé s'il en savait un peu plus. Pas trop, non, ça paraissait plutôt spontané dans la proposition, plutôt jeune, lycéen et étudiant, et en tout cas par contre très engagé dans les slogans. Ça fait du bien d'entendre des slogans antifascistes et contre le capitalisme, parce que ça, j'ai un peu l'impression qu'il y a certains jours, on a un peu oublié la lutte contre le capitalisme et puis des appels à ne voter ni Monsieur Macron ni Madame Le Pen. Bon, moi j'ai fait une petite remarque sur le sexisme du slogan qui disait ni Marine ni Macron.
Alors en fait c'est ni patrie ni patron, voilà. Ni Marine ni Macron.
Alors ça rime, on est
alors,
d'accord.
Ils ont tout fait pour que ça rime.
À l'envers, je voulais dire.
Voilà, ils ont choisi le prénom et lui le nom et c'est toujours.
Et bon, j'aime pas bien qu'on appelle toujours les femmes par leur prénom, mais en tout cas voilà, ça claquait un petit peu dans les slogans. Évidemment, force de police bien présente avec la BAC, les agents de la BAC bien équipés avec avec la gazeuse bien à proximité de la main. Donc on comprend, hein, des jeunes engagés qui ont des opinions. C'est vrai que ça fait peur et ça gêne, hein, dans notre démocratie, qui voit donc un libéral, libéral en tout, hein, libéral économique, mais libéral sur le reste, et puis une raciste de ce parti qui commence à bien nous emmerder, le Front National, puisqu'elle a beau dire que c'est pas le Front National qui va à la présidentielle, mais c'est le soutien du Front National qui l'accompagne. Elle nous fait bien rigoler, Madame Le Pen. Alors ils se sont fait bien remarquer, hein, bah oui, il faut qu'ils continuent maintenant tous les deux la campagne, puisqu'hier après-midi, ils et elles sont allés sur le site de Whirlpool d'Amiens, hein, dont la délocalisation est annoncée pour juin 2018. Ces visites ont été largement médiatisées, tout comme le propos de Monsieur Attali. Il nous avait pas manqué, hein, celui-là, hein, qui, en réponse à une première phrase qui était « Je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes », à la question « Les ouvriers de Whirlpool, c'est des anecdotes, hein ?» Donc, oui. Et il a répondu « C'est en effet une anecdote dans un contexte plus large. » Je vous passe la fin de la phrase et de son argumentation qui n'amène rien à cette insulte, hein, de Monsieur Attali, qui s'est fait a priori remettre à sa place par l'équipe de Monsieur Macron, qui n'a du mal un petit peu avec les perturbateurs. Alors évidemment, et Madame Le Pen et Monsieur Macron ont promis d'aider les salariés, les ouvriers de Whirlpool. Madame Le Pen annonce qu'elle va sauver l'usine, qu'elle va garder tous les emplois, hein, comme Laurent Meul a fait remarquer. On ne sait pas bien comment. Bon, ben voilà. Monsieur Macron, lui, il est plus prudent. Il a pas promis de sauver tous les emplois, hein. Il fait pas des promesses que de toute façon, il sait qu'il pourra pas tenir. Par contre, il veut mettre la pression, hein, sur Whirlpool pour obtenir un bon plan social. Ça, c'est sympa, au moins, d'accompagner dans le licenciement les salariés. En tout cas, cette question de l'industrie française est revenue, hein, dans le débat présidentiel. On nous parle beaucoup des ouvriers, sauf qu'il faut regarder les chiffres dans l'industrie. Aujourd'hui, ce sont des cadres, hein, qui sont les plus présents. Les ouvriers, il y en a de moins en moins. Alors, tant mieux, parce que qui dit cadre dit rémunération supérieure. Sauf que là, il faut arrêter de nous dire qu'on va voir les ouvriers de Whirlpool. C'est du populisme, hein, c'est une campagne présidentielle assez vite, ça y est, qui se met sur le côté du travail de l'ouvrier, comme si c'était l'ouvrier et l'ouvrière qui faisait la campagne présidentielle. En tout cas, Madame Le Pen était à nouveau aujourd'hui en déplacement médiatique. Elle était au port du Gros-du-Roi, c'est dans le Gard, où elle a fait de très bons scores. Et elle était sur un chalutier, La Grâce de Dieu 2, c'est dur à dire, j'ai dû m'entraîner, qui appartient en fait à un ancien candidat FN aux élections régionales de 2015. Donc elle était sur un chalutier, tout ce qu'il y a de plus amicale, et donc elle était accompagnée de quelques journalistes, de monsieur Gilbert Collard, et donc elle a fait le bruit du dauphin, hein, ce qui a beaucoup circulé. Voilà, donc elle se met en scène, hein, elle rigole, elle est là sur un chalutier, c'est sympa, c'est sympa, alors que hier elle était la main sur le cœur avec les salariés de Whirlpool. En tout cas, du côté de monsieur Macron, on s'inquiète, parce que depuis dimanche, il y a un certain nombre d'appels à voter en sa faveur pour barrer la route à Madame Le Pen. Et En Marche, du côté de En Marche, on craint que tous ces soutiens ne gonflent le temps de parole du candidat. C'est marrant comme quoi, hein, des choses toutes pratiques et toutes bêtes peuvent vous occuper pendant plusieurs journées dans une campagne présidentielle. Bon, il faut dire que quand vous avez le soutien de Monsieur Fillon, Sarkozy, voilà, il faut aussi porter ces petites choses-là. D'ailleurs, la politique, il faut le dire, et cette campagne a dégoûté Monsieur Lellouche, le député Les Républicains, Monsieur Pierre Lellouche, qui a donc décidé de se retirer de la vie politique. Qu'est-ce qu'on est triste. Incroyable, hein, quand même. Il a dit que c'était une épreuve épouvantable, et il a expliqué que François Fillon était entouré d'un camarilla de fidèles et d'ambitieux, conforté par l'hystérie d'une secte. Hein, quand même, il a tenu jusque-là ses propos. Mais au fond, nous, ce qui nous intéresse vraiment dans cette émission, c'est de savoir ce qui va arriver à Gérard. Gérard Collomb, notre bon sénateur maire, empereur de la métropole, va-t-il abandonner cette métropole, son bébé, son amour, sa vie pour partir? Peut-être sera-t-il ministre, en tout cas, on ne sait pas bien. Il était le premier des soutiens de Monsieur Macron, il était le premier sur les plateaux de télévision ce dimanche soir. Nous, en tout cas, on attend vivement de savoir ce que va faire Gérard. Est-ce qu'il va aller être député pour ajouter une couche à ce qu'il est déjà ou va-t-il enfin être ministre ? Il commence à se faire vieux, hein, Monsieur Collomb, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'il va oser quitter Lyon, s'exiler ? Donc ce soir, nous allons parler de discrimination avec Laurent. Et Laurent nous parlera aussi des fachos ce soir. Il y a beaucoup à dire. On reviendra sur la Farjol-Sim. On parlera aussi de liberté de la presse, parce que ça recule de partout. On repartira en Corée du Sud et en Corée du Nord. On partira en Turquie parce que ça ne s'améliore pas. On fera un petit tour sur l'Arabie Saoudite qui est donc admis à la commission de la condition des femmes de l'ONU. Et oui, ce n'est pas une blague. Nous parlerons vélo avec Laurent pour terminer.
Oui, alors on va ouvrir avec une petite info pour rappeler que on nous parle beaucoup des keufs qui se font agresser. Hein, rappelons-nous aujourd'hui, si vous avez entendu certains gros médias dominants, deux policiers ont été blessés à La Réunion par un jeune soupçonné de radicalisme. À la veille du premier tour, on a ce flic qui est tué sur les Champs-Élysées par un délinquant qui est lui aussi soupçonné de radicalisme, enfin qui est plus délinquant que musulman radical, hein, puisque ça, il a fait beaucoup d'années de prison et au moins 25 ans de délinquance, peut-être 3 semaines de radicalisation, donc bon, on voit très bien du côté où il penche. Et on se dit, bah, c'est bizarre, pourquoi on parle que d'eux, pourquoi ces travailleurs, hein, finalement, ils travaillent, les flics sont des travailleurs qui travaillent dans la répression, certes, mais qui travaillent. Pourquoi eux, ils font la une des journaux, la une des médias dominants, alors que le commun des mortels, lui, ne fait pas la une des journaux. Il y a une vraie discrimination permanente entre le citoyen lambda et la personne qui travaille dans les services de répression, que ce soit le flic ou le gendarme. Et effectivement, les accidents du travail, puisque un flic qui se blesse dans le cadre de son travail est un accident du travail, est toujours mis en avant, alors que les autres travailleurs qui meurent beaucoup plus que les flics, hein, faut le savoir, en moyenne, c'est quasiment, il y a un peu plus de 500 morts par an, donc c'est à peu près 2 personnes qui meurent par jour, on va dire, en France, à cause du travail. Et les flics, parce qu'on a les infos pour les flics, c'est un de temps en temps. Donc en fait, il y a beaucoup plus de non-flics qui meurent que de flics qui meurent. Alors bien évidemment, on rêverait qu'il n'y ait aucun travailleur qui ne meure ou qui ne se blesse sur les lieux de son travail. 624 525 accidents du travail déclarés en 2015, l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, parce qu'on n'a pas les chiffres de 2016, ça fait quand même beaucoup. Et c'est pareil, c'est majoritairement des non-flics. Alors voilà, donc je voulais reparler de ça, puisque les journaux pratiquent cette discrimination qui n'est pas condamnée, pas attaquable. A priori, on a le droit de ne parler que de certains blessés, certains accidentés du travail, certains morts au travail, et pas des autres. Et ce qui est un peu triste. Alors, pour donner les derniers chiffres qu'on peut avoir, qui sont très très approximatifs, au mois de mars, on a eu écho à travers des petites dépêches de presse de 20 morts hormis les flics sur les lieux de travail. En février 19, en janvier 23, alors bien évidemment il y en a au moins le double, mais les autres, bah, on n'aura pas les infos, puisque on ne peut avoir les infos que quand l'assurance maladie ou l'INRS ou les instituts officiels publics qui travaillent sur la sécurité et sur le travail donneront les chiffres. Enfin voilà, je voulais rappeler cette discrimination très importante. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi la presse dominante ne parle-t-elle pas des accidents du travail des citoyens traditionnels et ne parle-t-elle que quasiment des accidents du travail des personnes qui travaillent dans la répression, essentiellement chez les flics d'ailleurs. Alors, il y a vraisemblablement des raisons d'audience, hein, puisque c'est plus croustillant, plus vendable, hein, puisque je vous rappelle, les médias dominants, ils vendent de la pub, hein, l'information c'est entre les plages de pub. Il y a aussi sûrement, malheureusement, des raisons idéologiques, parce qu'ils pensent réellement, même si c'est de manière inconsciente, qu'un flic est plus important qu'un travailleur du bâtiment, hein, puisque c'est là où il y a le plus d'accidents, c'est dans le bâtiment. Et puis, comme ça, grâce à ça, ils font monter le FN. Alors, ils sont pas tous fachos, mais par contre, ça les arrange que le FN monte, puisque quand le FN monte, ils peuvent inviter les gens du FN, et ça fait beaucoup plus d'audience. Et ça, on en a bien conscience que c'est bien les journalistes alliés à certains politiques qui ont fait monter le Front National. Il y a le libéralisme, hein, porté par Emmanuel Macron, qui est à l'origine de la montée du Front National, mais il y a aussi le Parti Socialiste il y a quelques années, et encore récemment, et il y a aussi beaucoup les médias dominants. Donc voilà, c'était ma petite intro sur les fachos, puisqu'on, voilà, entre la discrimination avec les flics et les fachos, la transition est évidente. On va commencer par Robert Ménard et des bonnes nouvelles. puisque Robert Ménard, maire qui est allié au Front National, a été condamné à 2 000 € d'amende pour provocation à la haine. Alors il a été poursuivi pour différentes choses, notamment pour avoir dit sur LCI le 5 décembre, je cite, « Dans une classe de centre-ville de chez moi, 91% d'enfants musulmans, évidemment que c'est un problème. » Donc il a été condamné pour cette phrase, provocation à la haine et à la discrimination. D'ailleurs le procureur rappelait qu'on ne peut pas réduire les enfants à leur religion et que la religion n'induit pas ni une non-nationalité française ni une nationalité française. Donc il y avait un vrai problème de discrimination et de provocation à la haine dans le propos de Monsieur Ménard. Alors il y a aussi d'autres poursuites en justice, hein, notamment sur ces tweets qui défendent la thèse du grand remplacement. Thèse portée par alors que les manifestants Antifa passent devant Radio Canu, nous les saluons au passage. Du coup, je suis un peu perdu. Donc voilà, bon, bref, le maire de Béziers a été condamné. Il a annoncé tout de suite qu'il fera appel de sa condamnation. Voilà, on espère que ça continuera les condamnations dans ce sens-là, puisque ça nous fait vraiment très très plaisir. Alors, toujours dans les choses en lien avec le Front National et avec l'extrême droite. Eh ben, on va parler de Jean-François Djalk, qui est donc le nouveau chef du Front National, puisque Marine Le Pen s'est retirée de la présidence pour être juste la candidate de l'extrême droite. Des gens ont ressorti des choses qu'il avait dit, des journalistes ont exhumé certaines déclarations.
Ah, les vilains.
Ils sont pas sympas. Alors notamment, il faisait référence à quelqu'un qu'il soutient, un négationniste connu, Robert Forisson, qui est grand ami de pas mal de gens à l'extrême droite, notamment de Dieudonné, sur l'usage du gaz Zyklon B notamment. C'est un article qui était paru dans le Temps des Savoirs en 2005, et il était interviewé pour ça, et lui faisait la différence entre les bons négationnistes et les méchants négationnistes, et il pensait que Robert Forisson était quelqu'un de défendable, et lui, il disait, je vais citer la phrase, je m'intéresse à un spécialiste de la chimie et je lui demande sur l'utilisation d'un gaz, par exemple, qu'on appelle le Zyklon B. Moi, je considère que d'un point de vue technique, il est impossible de l'utiliser dans des exterminations de masse. Pourtant, l'histoire a montré le contraire. Mais non, il remet en cause l'histoire, c'est bien un révisionniste. Alors, la réponse du Front National et de Philippot, c'est de le soutenir. Alors, Philippot, il a dit, je le connais bien, c'est un honnête homme. Ah oui, on peut être honnête et fasciste, hein, y a pas de souci. Hein. Alors a priori le Front National est pas honnête, on va en parler juste après. Mais bon, voilà, c'est juste pour rappeler que ce sont toujours les mêmes, hein, qui sont au Front National, des anciens du GUD, des identitaires. Et lui, même si lui, ce nouveau président, il est issu essentiellement du Front National, mais il est rentré il y a très longtemps, il est bien le petit facho qu'il est, et le petit révisionniste qu'il est. Alors justement, sur le Front National et la malhonnêteté du parti, c'est l'affaire des emplois fictifs des assistants parlementaires du FN au Parlement européen qui a rebondi aujourd'hui, puisque on a appris que l'argent détourné par le Front National se montait à 4 978 122 euros, donc bref, presque 5 millions d'euros. Au début de l'enquête, on était à 2 millions d'euros d'argent volé par le Front National. Aujourd'hui, on est à 5 millions, donc c'est beaucoup plus que prévu. Ce qui fait passer François Fillon pour un petit voleur, on va le dire.
Hein, c'est ça.
Un petit voleur. Alors, bien évidemment, pour l'instant, rien n'a été jugé. Donc on en est là, mais depuis hier, l'idée, enfin en tout cas la démarche pour la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen est en cours. Alors il faudra certainement plusieurs mois. Alors si elle n'est pas élue dimanche 7 mai, il y a des chances qu'elle passe devant la justice et ça nous fera très très plaisir. Il est quand même totalement inadmissible qu'il y ait une différence entre toi, Delphine, qui va voler, je sais pas, le canard enchaîné dans le marchand de journaux à côté, tu te fais arrêter, tu vas en prison. Marine Le Pen, elle détourne, a priori, 5 millions, et elle va pas en prison parce qu'elle a une immunité, donc c'est une belle discrimination aussi, négative pour toi et positive pour elle. Elle a toujours été contre, hein, l'égalité des citoyens. La preuve, c'est qu'elle se sert de son immunité pour faire campagne. Et pour avoir le droit de faire campagne sans ça, elle serait déjà poursuivie.
Alors, je sais pas si t'as lu ça, juste pour aller dans l'histoire des affaires et de Monsieur Fillon, le pôle financier du tribunal de grande instance de Paris a envoyé à 5 hebdomadaires des demandes de recherche dans leurs archives pour savoir si Pénélope Fillon a travaillé, donc de savoir est-ce qu'ils avaient écrit des articles. Donc on en est là. Il faut savoir que le groupe Publi Hebdo a répondu à la justice qu'il y avait un dépôt légal à la BNF et que ces archives étaient à la disposition de la justice. Bon. Quelque part, ils ont un peu raison. La justice peut aussi aller faire ce travail. A priori, le groupe Publi Hebdo n'a pas l'intention d'aider la justice sur cette affaire Fillon, mais j'ai trouvé ça plutôt drôle qu'on en soit allé chercher des preuves dans la presse papier.
Voilà. Et alors, pour terminer sur ce deuxième tour de la présidentielle, avec ce combat entre l'extrême droite portée par Marine Le Pen et le centre droit porté par Emmanuel Macron, hein, qui se dit ni de gauche ni de droite, mais qui est bien de centre droit. En tout cas, c'est ce que son programme laisse entendre en tant que libéral. En tout cas, on a aujourd'hui un truc qui sociologiquement apparaît vraiment très évident, c'est que il y a deux France qui s'opposent, une France dite d'en bas, une France dite d'en haut. Et malheureusement, hein, dans la constatation qu'on a, la France dite d'en bas, elle est portée par Marine Le Pen aujourd'hui, et la France dite d'en haut, elle est vraiment portée par Emmanuel Macron. C'est triste aujourd'hui qu'on ait voilà les déçus, les pauvres, les exploités, qui se sentent représentés par Marine Le Pen. On rappelle que Marine Le Pen, elle n'a quasiment jamais travaillé. C'est juste une héritière. Elle a hérité de l'argent, elle a hérité du parti construit par son père. Et que cette riche héritière, et en plus fasciste, soit représentative, enfin, représenterait la classe populaire. C'est vraiment un vol, hein, un vol sociologique, un vol idéologique. Mais malheureusement, c'est un vol qui fonctionne, hein, puisque quand on voit des reportages qui se passent dans des zones un peu sinistrées, hors des grandes villes, hein, puisque dans les grandes villes, Marine Le Pen ne fait pas forcément ces scores-là, elle est vraiment portée par la classe d'en bas, comme on peut le lire. Emmanuel Macron étant bien sûr l'inverse, puisqu'il est porté essentiellement par les libéraux qui sont plus jeunes, plus classe moyenne, plus riches. Et voilà, cette élection présidentielle est vraiment une catastrophe idéologique, une catastrophe sociologique, puisque finalement, la majorité des gens ne sont pas représentés par aucun des deux candidats, ce qui explique aussi pourquoi il y a des appels à ne pas aller voter, en dehors des gens comme nous, qui sommes anarchistes et qui n'apprécions pas et refusons la démocratie représentative, et nous sommes plutôt pour un système autogestionnaire ou de démocratie directe. Il y a une généralisation de l'appel au boycott où on non vote ou au vote blanc, ce qui était beaucoup moins le cas les autres fois, parce qu'effectivement là on est vraiment hors représentativité totale. Ceci dit, ceux qui se réveillent aujourd'hui, ils auraient dû se rendre compte que ça fait déjà peut-être 50-60 ans que les élus ne sont représentatifs que d'eux-mêmes et certainement pas de la population française.
En tout cas, quand on voit les chiffres, les électeurs votants votent à droite, et c'est pas la France qui vote à droite, comme j'ai pu l'entendre dire sur une radio, c'est bien des électeurs votants qui ont majoritairement voté à droite, hein, donc ça va de la droite de Monsieur Macron, centre droit, je vous l'accorde, à Monsieur Fillon, là on est dans le conservatisme, on a Dupont-Aignan, Le Pen, Asselineau, enfin voilà, on a quand même, oui, des électeurs votants de droite, et c'est eux qui sont majoritaires dans ces élections, voilà. On va continuer avec des petits profiteurs, hein, vous savez, les petits capitalistes. On va revenir sur l'affaire Jolcim. Vous vous souvenez de cette affaire? On en a parlé ici. Ils se sont fait coincer sur leur présence en Syrie. Alors, on a appris que le conseil d'administration avait obtenu la démission du patron de Lafarge Holcim, monsieur Eric Olson. Oui, alors dans ces cas-là, on licencie pas, hein. On a quelqu'un qui démissionne, qui se sacrifie. Il va quitter ses fonctions à partir du 15 juillet. Alors c'est un moyen d'essayer de faire taire les polémiques sur la situation en Syrie, de tourner la page. Alors, je vous rappelle, donc la multinationale a accusé d'avoir financé l'État islamique pour continuer à faire tourner une cimenterie en Syrie, malgré la guerre, d'avoir obtenu acheté des laissez-passer pour ses camions et ses salariés. Donc une très sale histoire, hein, qui avait été portée par Le Monde il y a déjà quelques mois. Donc aujourd'hui, la multinationale espère bien redorer son image, et donc elle sacrifie son DG, son directeur général, qui lui-même explique que son départ contribuera à ramener la sérénité. Moi, je suis pas sûre, monsieur Olson, mais enfin bon, pour le coup, c'est toi qui prends. Il faut se souvenir que le ministère de l'économie, Bercy, a porté plainte contre la multinationale, qu'il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte contre la multinationale. Donc, ça fait beaucoup. Pourtant, monsieur Olson avait réussi un bon exercice. En tant que patron, il s'en est plutôt bien sorti. À la base, les actionnaires étaient plutôt contents. Il a relancé le chiffre d'affaires à lui tout seul, bien évidemment, avec ses petits bras. On parle de rentabilité opérationnelle améliorée. Donc, pourtant, il avait des bons résultats, ce monsieur Olson. Pourtant, ben, c'est lui qui saute. Il faut se souvenir que Lafarge-Olsim avait fait appel à un audit indépendant pour chercher les responsabilités. Le conseil d'administration de Lafarge-Olsim avait choisi un cabinet des États-Unis d'Amérique qui s'appelle Baker & McKenzie, qui est un cabinet qui est habitué aux procédures judiciaires aux États-Unis d'Amérique et qui est présenté comme impitoyable, très très dur dans ses audits. Et le 3 mars, les premiers résultats de cet audit tombent et Lafarge est déclaré avoir commis des actes inadmissibles. Donc au niveau du conseil à l'intérieur, du conseil d'administration, il a fallu quand même un petit peu réagir. Et puis la réalité, c'est que ça a soulevé les débats internes qui étaient là depuis longtemps, parce que il y a des actionnaires dans ce groupe qui ne s'entendent au final pas très bien. Je vous rappelle que Lafarge Olsim, c'est une fusion de Lafarge et du groupe Olsim, donc du coup ça s'est pas passé si simplement, cette affaire. Alors par exemple, moi j'ai lu qu'il y a des gens comme monsieur Schmidani, c'est un homme d'affaires suisse qui détient plus de 11% de Lafarge Olsim. Lui, il en a vécu d'autres, donc Swissair, je rappelle, une faillite, l'amiante, petit problème, petit scandale, des délits d'initié en Espagne. Donc finalement, cette histoire, bon, on en a un peu l'habitude. J'ai lu aussi quelques affaires sur monsieur Nassef Sawiris. C'est un milliardaire égyptien qui lui détient pratiquement 5%. Lui, il fait que des affaires dans les zones de guerre. Donc en fait, finalement, cette affaire, lui, ça l'aime pas. Mais il y en a d'autres que c'est un petit peu ému, a priori, au conseil d'administration. Donc tout ça sert quand même un petit peu à se taper dessus dans un conseil d'administration, dans des actionnaires qui globalement ne peuvent pas se sentir. Vous me permettrez l'expression. Il faut savoir, il faut se souvenir que ils se sont déjà débarrassés du coprésident du conseil d'administration. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas ni le licencier ni lui demander de démissionner. Il va juste pas se représenter pour un mandat à la prochaine assemblée générale des actionnaires le 3 mai prochain à Zurich. Donc tout ça ne servant pas, bah on a fait passer monsieur Olsen comme étant la personne qui est visée. Pourtant, le rapport du cabinet Baker & McKenzie l'a complètement blanchi de cette affaire en Syrie. Donc il saute en fait. Bon, je me dis qu'il a peut-être bien parti à quelque chose, quand même. Parce que pour sauter aussi facilement, c'est que sinon il a peut-être des choses à se reprocher, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est quand même à noter, c'est que cette démission n'a pas plu à la bourse. Dès les annonces, quand la bourse a réouvert, c'est en début de semaine, dès l'annonce de l'arrivée de monsieur Macron en tête du premier tour, la bourse s'est éclatée. Et il faut savoir que dans le BTP, Eiffage, Vinci et les autres, Saint-Gobain aussi, ont eu des hausses de près de 7%. Ça a très très bien réagi. Par contre, Lafarge-Olsim, ça a perdu 2%. Donc en fait, ça n'a pas plu à la bourse, cette affaire de démission. Ça a coûté de l'argent, surtout. Pour l'instant, c'est le seul résultat de cette démission forcée de M. Olson de Lafarge-Olsim.
Alors, comme d'habitude, une fois par an, nous avons Reporters sans frontières qui nous fait son petit rapport sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Donc aujourd'hui, on apprend que c'est pire que jamais, d'après eux, que ça recule de partout, même dans les pays dits démocratiques, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé. On a même, d'après eux, 211 journalistes, ils ont compté, il y en a peut-être plus, mais bon, ils ont trouvé 211, qui, durant les 6 dernières années de guerre en Syrie, sont morts durant cette guerre, c'est presque autant que durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour dire que c'est pas terrible d'être journaliste en zone de conflit en ce moment. Voilà, il y a la Turquie qui est devenue la plus grande prison du monde pour les journalistes, la Chine qui enferme massivement les journalistes citoyens, c'est-à-dire les blogueurs. Enfin voilà, grosso modo, tout va mal. Alors, on va regarder un petit peu ça en détail. Donc, pour eux, la qualification, c'est que 2017, c'est l'année du grand basculement. C'est-à-dire que toutes les systèmes politiques basculent dans la répression sur la presse. Donc, ils nous disent, par exemple, 2/3, donc c'est 62,2% pour être exact, des pays répertoriés ont enregistré l'année dernière une aggravation de leur situation. Les 2/3, 62%. Alors, 3 pays sont descendus tout en bas dans les pires, hein, le Burundi. Bon, on n'est pas surpris non plus. Le Bahreïn et l'ami de la France, l'ami des États-Unis d'Amérique, l'Égypte, qui se retrouve 161e sur 180. Donc voilà, l'Égypte est au plus bas aujourd'hui. Alors, les plus bas, c'est toujours un peu les mêmes. En dernier, la Corée du Nord, hein, c'est logique. Hein, on va en reparler juste après. Le Turkménistan en 178 et l'Érythrée en 179. Bon, là, dans ces trois pays-là, il n'y a quasiment pas de presse, voire pas de presse du tout et pas de presse libre. Alors, le cas le plus préoccupant autour de l'Europe, c'est bien évidemment la Turquie, puisqu'en 12 ans, le pays a perdu 57 places dans le classement de Reporters sans frontières, 155e sur 180 aujourd'hui. Il faut dire qu'ils ont emprisonné à peu près tout ce qui était, ce qui existait comme journaliste à peu près libre, et en tout cas opposé au dictateur, au futur dictateur en chef, chef de l'AKP. Il y a le Mexique qui a beaucoup beaucoup reculé aussi, qui en 15 ans est passé de 75 à 147e. Voilà, le Mexique l'année dernière, c'est 10 journalistes qui ont été assassinés. C'est quand même pas mal, hein. Bon, juste derrière, il y a la Russie. Bon, bah, la Russie, on savait très bien que c'était déjà catastrophique depuis des années. Alors, le meilleur pays, comme d'habitude, c'est la Norvège. C'est un des rares pays qui protège la presse sur tous les plans d'attaque. Alors d'abord, les journalistes norvégiens ne meurent pas en général, ne se font pas attaquer, voilà. Et surtout économiquement, les journaux peuvent vivre. Et ça va être le deuxième plan, parce qu'on a parlé essentiellement des pays répressifs qui attaquent les journalistes, mais il y a l'autre manière d'attaquer la presse libre, c'est le moyen financier. Et on va revenir quand on va parler un petit peu de la France après. La Norvège, ils ont une loi qui est relativement forte sur la liberté de la presse, et notamment une loi anti-concentration de la presse. Ça a été adopté il y a 20 ans, hein, en 97. Ça interdit aux grands groupes de presse de posséder plus de 40% de capitaux des chaînes, de chaque chaîne de télévision, par exemple. Donc ça limite la concentration de télévision, de radio, de journal. Hein, on peut pas avoir plus de 40%. Donc effectivement, ça fait du pluralisme, même si ça reste libéral, ça fait du pluralisme. Alors pour la France, 39e, c'est pas très glorieux, hein, même si la presse y est globalement libre, on a vu pas mal de conflits menacer l'indépendance de la presse, notamment de manière forte, autoritaire. Alors il y a le cas Vincent Bolloré dont on a beaucoup parlé cette année, mais on a d'autres cas, par exemple le Canard Enchaîné a été beaucoup attaqué par Fillon et ses amis. Ils ont reçu même des menaces de mort. Alors on avait l'habitude de journaux plus agressifs comme Charlie Hebdo qui se faisaient attaquer facilement. Là, cette année, c'est le Canard Enchaîné qui a subi beaucoup de menaces et beaucoup d'attaques.
Ils ont reçu des balles, c'est ça,
hein? Ils ont reçu des balles, le Canard Enchaîné aussi.
Oui.
Voilà. Et dernièrement, alors on va remonter depuis le premier tour de l'élection présidentielle. Le 23 avril, le photographe Jacob Christ a été arrêté à Hénin-Beaumont, la ville fasciste, hein, qui a basculé dans l'escarpelle du Front National, le fief de Marine Le Pen. Il a été arrêté par la police, donc qui vraisemblablement assez proche du Front National. On parlerait de 50% des flics qui voteraient Front National, d'après une enquête. Ben voilà, ils ont arrêté un journaliste, ils l'ont gardé 36 heures en garde à vue. Voilà, c'est ça aujourd'hui ce qui se passe dans les villes Front National. Mais pas que. À Paris, lors des manifs toujours le 23 avril, suite au premier tour de la présidentielle, il y a un photographe, monsieur Mamon Kadoré, qui s'est fait choper par les flics, parce qu'il prenait des photos en tant que journaliste, et ils lui ont piqué les photos, sa carte mémoire. Ce qui est interdit, hein, mais ça, voilà. Donc l'État intervient comme ça en France aujourd'hui, comme Erdogan, pour empêcher les journalistes de travailler. Et puis pour remonter plus loin, il y a Audrey Poulvard qui s'est fait suspendre parce qu'elle avait dit qu'elle était contre le Front National. On sait qu'elle est proche d'Emmanuel Macron, mais ça c'est plus autorisé aujourd'hui dans CNews, l'ancien ITélé. Donc voilà, c'est ce qu'on voit apparaître et ce que dénonce Reporters sans frontières, c'est bien sûr les dérives autoritaires des différents États, hein, que ça soit bien sûr Erdogan, mais en France on l'a vu, de certains partis, hein, comme les Républicains ou le Front National, qui attaquent la liberté de la presse. Et puis, j'en ai moins parlé, mais la mainmise financière du patronat sur la presse française, hein, grosso modo, il y a 10 milliardaires en France qui possèdent l'essentiel de la presse française. Donc, grosso modo, la presse se porte pas très bien. Mais il y a quelques contre-exemples, hein, de journaux totalement indépendants du monde capitaliste, c'est-à-dire qui n'ont pas de publicité, et qui n'ont pas de dettes et qui vivent bien. Il y a le Canard Enchaîné et qui tire à grands exemplaires. Il y a le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, il y en a quelques autres comme ça. Il y a aussi des petits journaux, CQFD comme ça, qui survivent mais qui ont un impact beaucoup plus faible. L'âge de fer pour les écolos, silence pour les écolos, voilà. Mais grosso modo, la presse internationale et française se porte pas très bien. On le savait déjà, nos copains d'Acrimed 69 nous avaient déjà pas mal donné d'informations là-dessus.
Alors on va repartir en Corée du Sud et en Corée du Nord. Il y a eu des manifestations en Corée du Sud, c'était hier à Seongju, c'est dans le sud de la Corée du Sud. Pourquoi les habitants de Seongju se sont rassemblés, ils ont manifesté. Ils ont manifesté contre l'installation du dispositif de défense, le Terminal IT. Altitude Airway Defense, qu'on appelle le TAD, sinon, pour vous expliquer tout ça. Donc, qui dit dispositif, hein, c'est pas comme dans les films de science-fiction, c'est pas un joli dôme, hein, qui va se mettre au-dessus et les armes, elles vont pas arriver. Non, ça demande donc des installations et donc, les habitants et des militants s'étaient positionnés le long du passage des camions qui transportent les éléments du dispositif de ce bouclier antimissile. Évidemment, comme la police est à peu près la même de partout, et mal à charger. Il y a eu des blessés et des gens arrêtés. Alors oui, vous allez me dire, il y a en Corée du Sud un sentiment anti-américain, mais il n'y a pas que ça. Il faut arrêter aussi avec ça. Il y a des gens qui ne veulent pas de cet armement sur le sol de la Corée du Sud, qui en ont marre de la militarisation. Et puis, il y a aussi des écolos qui se sont élevés contre l'installation de ce truc, parce que c'est une grosse installation. C'est marrant du coup parce que là on se retrouve avec une situation de des États-Unis d'Amérique qui veulent vraiment se réimplanter en Corée du Sud. Alors quand je dis ça, en même temps j'y mets des guillemets. Alors il faut bien se rendre compte que dans Séoul, il y a une énorme base militaire.
Ah oui, un truc de fou. Hein.
Des États-Unis d'Amérique, donc ils sont quand même très très présents, ils sont jamais partis, hein, en fait, depuis les années 50, les Américains. Du côté de monsieur Trump et de son administration, on déclare que il faut calmer le jeu, ça fait rigoler, et que donc l'idée c'est de durcir les sanctions économiques, les sanctions internationales économiques, et de mettre en place des pressions diplomatiques avant les options militaires. Bon, pour l'instant, je voudrais pas dire à monsieur Trump, mais les pressions diplomatiques, je crois que du côté de Pyongyang, on a l'air un petit peu de s'en moquer. Quant aux sanctions internationales, elles ne peuvent marcher que, encore une fois, si la Chine suit, sinon monsieur Obama a essayé dernièrement, ça n'a pas servi à grand chose. En tout cas, donc monsieur Trump veut calmer le jeu, mais en même temps, il a fait faire escale dans un port sud-coréen à l'USS Michigan. C'est un sous-marin, et oui. Bon, il faisait que passer, hein, il paraît, hein. Je vous rappelle, la semaine dernière, on vous a parlé de l'USS Carl Vinson qui devrait bientôt arriver. Enfin, en tout cas, on l'espère dans le cadre de la grande réaction de monsieur Trump pour battre la Corée du Nord. Donc tout ça, c'est quand même le bazar, et ça mêle bazar dans des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Parce qu'à vrai dire, je n'avais pas suivi, mais les prochains mondiaux de judo junior étaient organisés où ? En Corée du Nord. Oui.
En Corée du Nord ?
Oui. Ouais. Oui. Donc finalement, la fédération, c'était les championnats du monde junior qui devaient avoir lieu et qui vont avoir lieu du 18 au 22 octobre, étaient donc organisés en Corée du Nord. Déjà, la moyen truc que je comprends pas, comment une fédération sportive peut décider une telle chose. Alors il paraît que là, il y a quand même des problèmes, hein, qu'il y a un peu trop de tension. Je vous rappelle, c'est les juniors, hein, donc on parle quand même de jeunes qu'on envoie donc en Corée du Nord, tout ça pour faire du judo dans le cadre d'une compétition émission sportive et on finit par se dire que quand même non là c'est un petit peu trop craignos, hein, c'est dangereux. Donc on va trouver un autre pays, une autre ville pour accueillir des championnats de judo. Quand même, moi là je trouve aussi que des fois le capitalisme il touche le fond parce que rappelons-le, c'est quand même une histoire de business et pas de paix entre les peuples pour aller rencontrer des Nord-Coréens.
Alors on va refaire une petite info sur la Turquie, puisque depuis le référendum, ça continue de mal se passer, puisque dans de ces deux derniers jours, 1000 personnes ont été arrêtées, 9100 policiers ont été suspendus. Donc c'est une nouvelle vague de purge qui est lancée par le gouvernement de monsieur Recep Tayyip Erdogan contre soi-disant tous les gens qui sont en lien avec le prédicateur Fethullah Gulen. Donc voilà, on est 10 jours, hein, après la très très courte victoire de Erdogan à son référendum où il demandait grosso modo les pleins pouvoirs. Donc pour rentrer dans le détail, 1120 personnes soupçonnées donc de supporter Gulen ont été arrêtées en Turquie. C'était hier matin. 3200 personnes sont visées, hein, par un mandat d'arrêt depuis hier matin. De plus, 8500 policiers ont été mobilisés pour les interpeller. Donc, ils n'ont pas arrêté tout le monde encore. Donc, c'est un coup de filet énorme. Hein, c'est le plus gros depuis, on va dire, depuis 2-3 mois. Avec toujours cette excuse, hein, de la tentative de coup d'État de juillet de l'année dernière. Mais bon, là, ça commence à faire loin comme excuse. Surtout que on pensait qu'Erdogan calmerait peut-être un peu le jeu parce qu'il a gagné son référendum, mais de tellement peu qu'il est pas, voilà, il peut pas se sentir majoritaire dans le pays. Il peut pas, si. En fait, il est tellement imbu de lui-même qu'il va faire ce qu'il veut. Donc voilà. Officiellement, le discours, hein, du gouvernement, c'est, je cite, il veut montrer qu'il ne faiblira pas dans sa lutte contre le terrorisme à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, entendre par terroriste, c'est pas le mec de Daesh, c'est pas des gens comme ça, non, c'est les opposants, c'est-à-dire, grosso modo, les gens qui sont proches de Fethullah Gulen ou les Kurdes. Et c'est eux qui sont les premiers ennemis de la Turquie et certainement pas Daesh. Voilà. Alors, sur Fethullah Gulen, hein, il redemande encore régulièrement aux États-Unis d'Amérique de le laisser partir, enfin de l'arrêter et de l'extrader. Les États-Unis, pour l'instant, malgré l'arrivée de Trump, n'ont pas exécuté cet ordre, parce que c'est vraiment un ordre donné par la Turquie. Alors, il y a peu de réactions sur cette nouvelle vague d'arrestation. Le ministre allemand des Affaires étrangères, qui s'appelle Sigmar Gabriel, lui, il a fait part de, je cite, son inquiétude face à ces arrestations de masse. Ils se foutent de notre gueule, hein, quand même, les politiques. Et il a demandé qu'il y ait un respect de l'état de droit, qui n'existe plus en Turquie, donc on ne voit pas pourquoi il le respecterait. Le secrétaire de l'OTAN a réagi aussi, puisque aujourd'hui, il y a une réunion de l'OTAN, et on sait que la Turquie est membre de l'OTAN, donc il y avait un représentant de la Turquie, de respecter l'état de droit. Et c'est tout, c'est tout. Avec ces milliers d'arrestations, rien d'autre. Tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde continue de collaborer économiquement avec la Turquie, de collaborer politiquement avec la Turquie. C'est quand même la honte, parce que il suffirait de suspendre les accords de coopération avec la Turquie pour que la Turquie pleure. Parce qu'économiquement, la Turquie, elle a beaucoup de liens économiques avec le capitalisme européen. Elle a besoin de l'Europe et ça serait l'occasion de couper les ponts pour faire pression politiquement pour que la Turquie change. Et puis quand la Turquie reviendra à une politique correcte, remettre en place ses accords économiques. Malheureusement, personne en Europe a de courage politique. Voilà. Et alors, toujours sur la Turquie, parce que c'est pas tout, ils ont bombardé. Donc ça a commencé hier, ça a commencé mardi. Alors hier, en fait, c'est les accrochages qui ont eu lieu à la frontière, donc la frontière avec la Syrie, essentiellement. Donc là, c'est l'artillerie lourde turque qui a bombardé les positions des unités de protection du peuple kurde, hein, l'abrégé c'est YPG. C'est vers la ville syrienne de Darbassia. Bien sûr, les Kurdes ont lancé des roquettes pour répliquer, pour essayer de se défendre. Donc ça, c'est ce qui s'est passé hier. Si on remonte dans le temps, la veille, c'est là où c'est beaucoup plus grave. C'est que l'armée turque a mené des raids aériens contre l'unité de protection du peuple kurde. Cette armée du peuple kurde, hein, qui se bat en Syrie contre Daesh, on le rappelle, et contre Bachar el-Assad. Ça fait 28 morts, le bombardement des Turcs. Il faut dire qu'ils ont visé un centre, un QG, un quartier général de ces militants et cette armée de résistance. Et donc, ils ont tué beaucoup de gens. Donc voilà, c'est juste une action de plus, mais une action importante. Donc on rappelle quand même que ces unités de protection du peuple kurde sont la principale force d'opposition démocratique présente kurde présente en Syrie. Hein, c'est une alliance majoritairement de Kurdes et aussi d'Arabes qui refusent Daesh en Syrie et d'ailleurs aussi sur une partie irakienne. Donc là, on sait que la Turquie qualifie les YPG, ces unités de protection du peuple kurde, comme des terroristes. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a beaucoup de Kurdes dedans, parce qu'ils sont aussi en lien avec le PKK, hein, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, qui est un parti historiquement opposé à la Turquie, qui demande l'autonomie ou l'indépendance des régions kurdes. Il y a de la création d'un pays qui s'appellerait le Kurdistan, dans cet, enfin qui serait un Kurdistan avec les Kurdes qui sont présents, hein, on rappelle, en Irak, dans cet endroit-là, en Irak, en Syrie et en Turquie. Donc voilà, c'est une nouvelle pression. Alors c'est plus que de la pression, hein, puisque c'est des morts derrière tout ça. Alors ça fait pas beaucoup réagir non plus. Les États-Unis ont dit, bon, avant de bombarder, vous auriez pu nous prévenir. Bon, ils ont prévenu une heure avant. Juste pour leur dire, on va bombarder les résistants kurdes. La Russie réagit un petit peu aussi en disant que c'était pas acceptable de frapper les résistants kurdes. Bon, ça ira sûrement pas plus loin et c'est pareil, pas d'autre réaction. C'est silence complet en Europe. C'est là aussi la honte totale.
Alors la ronde totale, on va continuer, je te propose, je vais revenir sur ce qui s'est passé ce samedi 22 avril 2017 à New York au siège des Nations Unies, un vote pour élire un nouveau membre de la commission de la condition de la femme des Nations Unies pour la période 2018-2022 et c'est qui la honte ? C'est l'Arabie Saoudite.
Qui a gagné, donc qui va rentrer dans la commission de la condition des femmes. Les femmes qui n'ont pas de condition.
Je rappelle que, je cite, c'est une commission exclusivement consacrée à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Hein, tout ce que fait l'Arabie Saoudite.
C'est ça.
C'est magnifique. Ce qui est marrant aussi, c'est que l'Arabie Saoudite est classée 134e sur 145 pays au sein du classement établi par l'ONU sur l'égalité des sexes.
Donc c'est quasiment dans les 10 derniers. Allez.
Voilà. Alors bon, en fait, la commission, comme d'autres commissions de l'ONU, n'a pas le choix. En fait, il y a une liste, vous pouvez aller chercher sur le site CSW. Il y a un PDF, vous avez par continent, par région, un certain nombre de pays qui doivent être présentés, c'est comme ça, c'est la règle, et donc qui se présente, on fait un petit peu joujou, et donc on installe comme ça l'Arabie Saoudite pour nous sauver, nous les femmes. J'en suis tout émue, je dois vous le dire, vraiment. Alors en France on n'est pas trop émue, par contre en Belgique on l'est un peu, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le vote est secret, nous ne savons donc pas quel pays a voté quoi. Et en Belgique ça a soulevé des questions, puisque des députés, un peu comme chez nous aux questions, vous savez, à l'Assemblée, on posait un peu des questions, ils n'ont pas vraiment eu de réponse, donc du coup en Belgique on soupçonne bien la Belgique d'avoir soutenu l'Arabie Saoudite. Chez nous ça ne fait pas causer, c'est silence radio, on ne sait pas ce qu'il en est. Bon, on rappelle que l'Arabie Saoudite c'est un allié économique, et puis dans la lutte contre Daesh paraît-il, donc on est prêt à tout. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, c'est pas la première fois qu'il y a un pays qui malmène ces femmes, qui se retrouvent dans cette commission. On avait déjà eu l'Iran et le Qatar, donc bon, oui. En même temps, voilà, c'est pas non plus tellement une nouveauté, mais c'est quand même la honte, il faut le signaler. Toutes ces organisations comme l'ONU, des fois, elles déconnent, je parle mal, mais excusez-moi, mince, il y a quand même un gros souci de faire entrer un tel pays dans cette commission. Alors, de son côté, l'Arabie Saoudite explique en fait que c'est la charia qui amène l'égalité des sexes dans le pays, et que donc c'est plutôt une bonne chose, et qu'elle va pouvoir amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça qui est inquiétant, c'est que l'Arabie Saoudite, à la rigueur qu'on la fasse rentrer dans un groupe en espérant soi-même faire de l'entrisme pour faire passer des idées, nous on y croit moyen quand même, mais bon, il y a des gens qui défendent un peu cette position quand même, mais là quand même l'Arabie Saoudite a envie de montrer son modèle social, donc c'est génial, moi je trouve ça magnifique, la honte.
Ouais. On va terminer avec le droit des femmes encore.
Eh ben ouais.
Sur une étude qui a lieu à Bordeaux sur les femmes et le vélo. Donc c'est depuis mi-avril, donc il y a une quinzaine de jours. La métropole bordelaise a lancé une nouvelle grande enquête auprès des habitants et donc des habitantes pour connaître leurs habitudes de déplacement et identifier, je cite, les empêchements spécifiques à la pratique du vélo, de la marche et du covoiturage que pourraient rencontrer les femmes. Donc ça ne concerne pas que le vélo, que pourraient rencontrer les femmes. Alors c'est Yves Rébaud, qui est enseignant-chercheur en géographie à Bordeaux-Montaigne et qui va bosser dessus, qui était co-auteur du guide qui s'appelait « Genre et espace public » qu'il avait réalisé pour la mairie de Paris, qui est donc le responsable scientifique de cette enquête. On n'a pas encore les résultats, ça va s'affiner, on aura les résultats définitifs en fin d'année. En tout cas, ce qui se dessine, c'est quoi? C'est que même si la pratique du vélo augmente, on est aux alentours de 10% aujourd'hui à Bordeaux, plus qu'à Lyon. La différence de pratique du vélo entre les hommes et les femmes augmente aussi, puisqu'on a à peu près 60% des pratiquants du vélo qui sont des hommes et 40% qui sont des pratiquantes qui sont donc des femmes. Alors, l'étude va déterminer les raisons de cet écart. Alors, il y en a quelques-uns qui sont connus. Par exemple, l'arrivée du deuxième enfant sur une femme coupe totalement l'accès au vélo, puisque c'est plus possible. Comme c'est la femme qui s'occupe majoritairement des enfants, elle ne peut plus avoir deux enfants à gérer avec un vélo. C'est assez difficile. Donc ça, c'est parce qu'il y a une discrimination des rôles au sein des couples qui existe encore, hein, notamment pour gérer les enfants. Cette discrimination empêche finalement les femmes de pratiquer le vélo autant que les hommes. Alors ça, c'est une des petites raisons qu'on connaît déjà. Il y en a plein d'autres, et notamment la raison du harcèlement. Il y a quelques années, moi je me rappelle avoir lu une étude qui disait le contraire, qui disait notamment le soir, sur les sorties, les femmes, c'est une époque où le vélo n'était pas très développé, les femmes préféraient prendre le vélo le soir pour rentrer d'une soirée ou de je ne sais quoi, plutôt que les transports en commun, où effectivement elles étaient beaucoup plus harcelées dans les transports en commun. Ça a complètement changé aujourd'hui. Il y a déjà une ou deux études qui l'ont montré, qu'effectivement les femmes se font embêter à vélo, notamment quand elles s'arrêtent au feu rouge, puisque les mecs font des remarques, les gros lourds, etc. Vous imaginez les choses facilement. Bon, j'inciterai ces femmes à ne pas s'arrêter au feu rouge quand il n'y a pas de danger. Comme ça résoudra les problèmes. Il y a des villes où c'est autorisé. Je vous rappelle, il y a une ou deux villes en France, on a le droit en tant que cycliste de ne pas s'arrêter au feu rouge.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faut s'arrêter maintenant, parce qu'il faut résister. Et si jamais à chaque fois on fuit, non mais c'est le problème qu'on a les femmes, c'est qu'on fait tellement de choses pour se censurer par rapport aux attaques. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, ça devient un vrai problème, quoi.
Bon voilà. Alors il y a des endroits aussi. Alors le but de l'étude, c'est bon, de chercher ces raisons-là, et puis les endroits critiques à Bordeaux, parce que c'est sur Bordeaux que ça se passe, parce qu'effectivement il y a des endroits, ça a déjà été les endroits par exemple sous des ponts, pas éclairés, où les femmes passent pas, elles ont peur de se faire agresser. Donc là, ils ont déjà quelques lieux comme ça ciblés. Ils vont soit mettre de l'éclairage, soit facile, mettre de la vidéosurveillance, parce que ça, c'est la solution de facilité. Ça n'empêche pas l'agression, malheureusement. Ça déplace juste les zones d'agression. Mais il y a le but aussi de cette étude, c'est de trouver des moyens de trouver les lieux où il y a le plus de risques d'agression pour essayer de trouver des solutions. Et souvent, l'éclairage fait beaucoup, d'ailleurs, dans ces choses-là. L'idéal, ce serait de faire changer le comportement des hommes, mais là, je crois que c'est pas le but de l'étude, parce qu'ils ont pas les moyens, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, ça nous rappelle un truc, c'est que la discrimination, elle existe partout, et sur des pratiques aussi bêtes que la marche à pied, le vélo, parce que là, bon, finalement, l'étude va beaucoup porter sur le vélo, mais sur le covoiturage et sur la marche, il y a la même problématique. Sur la marche, ça a été déjà plusieurs fois identifié, les endroits où les femmes passent pas, etc. Donc voilà, c'est une étude qui va être intéressante. On aura l'analyse en fin d'année, et ça devrait pouvoir permettre de mettre des choses en place pour faire qu'il y ait une égalité aussi sur la pratique du vélo entre les hommes et les femmes, et qu'il y ait moins d'agressions des femmes. On sait qu'il y a, sur les transports en commun, il y a des choses qui ont été mises en place, hein, pour empêcher ou essayer de limiter ou sensibiliser sur le harcèlement des femmes dans les transports en commun. Donc voilà, ça sera aussi le cas dans le vélo. Alors là, c'est sur Bordeaux, et après, ça fera peut-être boule de neige. Alors, on a un peu de temps, je voulais revenir sur un film, moi. Tu voulais dire autre chose, toi ?
Non, je voulais parler de I'm not your nigger.
Non, bah, je voulais pas parler de ça, justement. C'est ça, on avait dit peut-être la semaine prochaine.
Alors, on en parlera la semaine prochaine, si tu veux bien.
Mais du coup, on avait pas mal parlé ici du film qui montrait un peu le Front National, qui s'appelait On est chez nous, oui. Qui avait sorti... Chez nous, mais je ne me rappelle plus du réalisateur belge, Bellevaux, Lucas Bellevaux. Et bah là, on a vu un film la semaine dernière qui est, alors voilà, chez nous, c'est vraiment le film qui représente Marine Le Pen. On voit très bien ce qu'est le Front National, comment ils arrivent à convaincre des petites gens ou des gens cons, mais racistes quelque part, hein, parce qu'on est obligé d'être raciste, sinon on vote pas pour un parti raciste. Et bah là, on a vu un film qui serait plutôt le film représentant l'idéologie portée par Emmanuel Macron, puisqu'on est allé voir Corporate.
Oui. Alors c'est un film qui a un petit côté naïf, hein, on va pas se le cacher non
irréaliste.
Plus. On sent qu'il y a aussi l'idée derrière du lanceur d'alerte qui viendrait un petit peu dans cette histoire. Mais c'est vrai que ça montre bien le mécanisme aujourd'hui qui se passe dans les multinationales, mais pas que, de comment les ressources humaines gèrent le travailleur ou la travailleuse.
Et comment on fait partir, en fait, de force ?
Comment, oui, on fait démissionner
le travailleur, voilà, ou la travailleuse, parce qu'il est devenu trop vieux, trop cher, etc. Et ce film démontre, voilà, c'est une DRH hein, qui est confrontée à ça, qui fait très bien son travail. C'est une vraie salope. Hein. Ça aurait été un mec, on aurait dit un vrai salaud. Hein, c'est pas sexiste ce que je dis. C'est, on la voit, on a juste envie de la mettre au pilori. Hein.
Ah,
c'est vraiment un monstre total. Le monstre.
Et pourtant,
le monstre du capitalisme, du libéralisme.
Elle est toute douce, elle a ce rapport aussi à la fois brutal dans son rapport de travail, mais en même temps, voilà, elle est trentenaire, elle gagne bien sa vie, elle a une famille, bon, on sent qu'elle travaille beaucoup, mais que finalement, elle est formée à ça. Elle n'a pas d'autre vision du monde du travail cette brutalité, cette violence qu'elle amène, elle. Hein.
Bon, c'est son choix quand même, quelque part.
Ah, tout à fait, mais c'est la seule chose qu'elle connaît.
Et puis,
quoi.
Du coup, elle pousse un salarié à partir, et en fait, il part, mais il part pas comme elle avait prévu, il se jette d'un étage de cette multinationale, il se suicide. Ça rappelle ce qui s'est passé chez Orange, chez Renault, enfin à pas mal d'endroits dans les grosses boîtes où on pousse le salarié à partir, mais bon voilà, des fois il part définitivement hein, et c'était pas ce qui était totalement prévu, on va dire quand même. On n'imagine pas que les DRH ont envie de faire mourir le personnel, ils ont juste envie qu'il dégage. Et là, le côté irréaliste du film, c'est qu'elle, bon, au début, elle va jusqu'au bout de sa démarche, prête à planquer des trucs pour pas que ça se sache, pour pas qu'elle soit mise en cause, etc. Et à un moment, elle va basculer. Parce que les autres lui mettent la pression aussi, parce qu'elle va servir, elle sent qu'elle va servir de fusible, elle va balancer ce qui se passe chez les DRH au sein de l'entreprise, expliquer pourquoi le plan, enfin tout ce qu'elle a fait, c'était prévu, ça a été organisé, et c'est le côté irréaliste parce que je sais pas si vous bossez dans une grosse boîte, je suis pas sûr que les DRH soient prêts à passer du côté du travailleur et arrêter d'être du côté du patron. Hein. Y en a eu peut-être un ou deux, mais je crois que chez Orange ça a pas été le cas, chez Renault. Quand il y a eu les suicides, ça n'a pas été le cas non plus. Donc c'est le petit côté irréaliste du film où c'est le monde des bisounours où la méchante, elle, d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle est méchante et elle veut dénoncer le système. Bon, après ça dénonce quand même bien ce qui se passe, le libéralisme hein, là porté par Emmanuel Macron. Et ce qu'on fait que les êtres humains sont juste là pour comme une variable d'ajustement, ils font gagner de l'argent à l'entreprise hein, et puis à un moment quand ils coûtent trop cher à l'entreprise, eh ben on s'en débarrasse. C'est juste une variable d'ajustement et on est juste dans ce monde inhumain. D'ailleurs, quand elle discute avec son compagnon, lui, il la soutient pas dans le fait quand elle se met à balancer qu'elle lui raconte, lui dit non mais c'est, tu le savais avant, c'est normal, c'est comme ça, il faut aller jusqu'au bout toi. Donc on sent que ces gens-là effectivement c'est un choix quand même idéologique de porter ces valeurs où l'être humain représente plus rien. Et c'est un film sur des monstres en fait. Moi,
et puis on aimerait croire aussi que les agents de l'inspection du travail ont tous suffisamment de bonnes conditions pour avoir la niaque de ce personnage absolument génial.
Hein, oui.
C'est un spectrice qui vraiment a une grande gueule. Alors, pour être inspecteur, inspectrice du travail, il faut une grande gueule. Ça ne veut pas dire que vous êtes un gueulard ou une gueularde. Ça veut dire que vous portez fort des règles et vous souhaitez les faire appliquer. Malheureusement, on sait que aujourd'hui, la situation de ces agents est très difficile. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils se retrouvent parfois isolés face à des cas particulièrement difficiles dans les entreprises. Donc, c'est vraiment des gens qu'on doit soutenir pour que nous, on puissions être vraiment être protégé au boulot, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu surréaliste ce film, mais c'est pas mal fait, mais c'est un tout petit peu surréaliste.
Voilà, c'est sur le monde moderne quand même, c'est assez réaliste là-dessus.
Donc la semaine prochaine, nous reviendrons sur I'm Not Your Negro, qu'a Arte a diffusé en avant-première française cette semaine. C'était mardi, c'est un film de Raoul Peck. Si je me permets juste de le redire, c'est que a priori, doit être diffusé sur Arte+, en attendant la sortie au cinéma le 10 mai prochain. Si vous avez des sous, franchement, attendez d'aller au ciné. Si vous n'avez pas de sous, trouvez ce moyen-là. C'est un très beau film, on en reparlera la semaine prochaine.
Sur James Baldwin, en fait, hein, écrivain noir américain. Et ça raconte l'histoire, une partie de l'histoire des Noirs américains et du racisme qui suit.
Et ne cherchez pas à voir la version anglophone, cherchez vraiment à voir la version française, parce que dessus nous avons une voix magnifique qui est celle de Joe Starr, et qui, moi j'ai écouté la version américaine, ça n'a rien à voir. Joe Starr, franchement, c'est une voix qui est forte, qui est profonde. Ne cherchez pas à voir une autre version.
Mais c'est la version originale, ceci dit, puisque le réalisateur est français.
Ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, le film est sorti déjà aux États-Unis. C'est un film pour les États-Unis d'Amérique. Il a été fait d'abord en anglais. Il faut savoir qu'en France, il n'y avait pas de distributeur. Ils se sont battus pour trouver un distributeur. C'est un documentaire qui est un succès aux États-Unis d'Amérique. On en reparle détail.
Il a eu plein de prix. Voilà, on en parle la semaine prochaine. C'était très beau.
Parce que c'est la fin de l'émission.
Voilà. Et il nous reste 1 minute 45 secondes pour faire un petit agenda qui va être très court. Je vais annoncer deux choses. D'abord, un truc sympa. Dimanche, rue Burdeau, sur les pentes de la Croix-Rousse, il y a la rue de la sérigraphie. Alors maintenant, ça s'appelle Sur les pavés, la sérigraphie. C'est la version numéro 3. Donc, dimanche 30 avril, ça commence à 10h du matin, ça se termine vers 19h. Il y a plein de stands de sérigraphie, un peu de plein de choses autour de cette pratique artisanale encore, souvent, pour réaliser des affiches, des t-shirts, des banderoles et des choses comme ça.
C'est un peu au bon marché pour moi, personnellement, sur la rue Burdeau, mais je suis toujours contente quand des gens occupent la rue et l'espace public.
Voilà. Et lundi, je vous rappelle que c'est non pas la fête du travail, mais la fête des travailleurs, car nous
sommes... Et des travailleuses.
Voilà, nous ne sommes pas pétainistes. Donc cette fête des travailleurs et des travailleuses donne lieu, comme d'habitude, à une manifestation. Cette année, ça part de la place Jean Massé à 10h30 et ça arrive...
Enfin, ça part. Le rendez-vous est à 10h30.
Et ça arrive place Bellecour. Et puis, il y aura sûrement des gens qui vont continuer pour venir. Je crois qu'il y a un repas de quartier à Radio Canu, mais c'est annoncé nulle part, ça. Mais
on a eu un peu du mal à faire du collage. Il faut quand même qu'on se jette aussi la pierre, tous et toutes, hein, parce que voilà, c'est un petit peu en retard. Mais effectivement, on peut toujours se rassembler.
Place Satonnet. Après, donc, il y aura des gens pour partir de la place Bellecour jusqu'à la place Satonnet. Donc, c'est lundi 1er. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de transport en commun. J'espère encore cette année, puisque c'est un jour où les travailleurs ne travaillent pas. Et oui, et les travailleuses non plus d'ailleurs. Ah oui,
je t'ai donné ce petit tract tout à l'heure sur la marche mondiale du cannabis 2017.
Donc c'est international.
Ouais, et maintenant c'est toujours, ça fait plusieurs années maintenant, ça fait longtemps. C'est samedi à 15h, place Carnot, donc c'est dans le deuxième. C'est organisé par le Cirque Lyon, mais en tout cas, il y a toujours, comme d'habitude, tout un tas d'organisations et d'associations qui s'associent à cette marche mondiale pour la fin de la prohibition, pour une réglementation des usages. Enfin, globalement, pour une ouverture d'esprit.
Voilà. Et il y aura une deuxième fête, hein, l'appel du 18 juin, comme d'habitude, aussi au même endroit. On laisse la place à la petite cuillère.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao.